Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie. Sixième partie. Toujours l'homme du peuple a été comme cela. Il est au plaisir qu'il ne peut recevoir sans trahir son honneur, tout ouvert et disposé, et au tort, à la douleur qu'il ne peut souffrir sans trahir son honneur, insensible. Je ne vois maintenant personne qui, entendant parler de Néron, ne tremble ne serait-ce qu'au surnom de ce vilain monstre, de cette répugnante et sale peste du monde, et toutefois de celui-là, de ce boute-feu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, on peut rappeler qu'après sa mort, qui fut aussi vilaine que sa vie, le noble peuple romain en conçut un tel déplaisir, se souvenant de ses jeux et de ses festins, qu'il fut sur le point d'emporter le deuil. Ainsi l'a écrit Corneille Tacite, auteur bon et sérieux et des plus certains. Ce qu'on ne trouvera pas étrange, vu que ce même peuple avait fait à la mort de Jules César, qui bannit les lois et la liberté, et qui n'apporta, ce me semble, rien qui vaille, car son humanité même, que l'on prêche tant, fut plus dommageable que la cruauté du plus sauvage tyran qui exista jamais. À la vérité, ce fut en effet sa fameuse, venimeuse douceur qui rendit sucrée la servitude du peuple romain. Mais après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore en bouche ses banquets et en l'esprit le souvenir de ses prodigalités, pour lui faire ses honneurs et le mettre en cendres, amoncela à l'envi les bancs de la place, et puis lui éleva une colonne comme au père du peuple, et lui fit plus d'honneur tout mort qu'il était, qu'il n'en aurait dû faire à bon droit à aucun homme au monde, excepté éventuellement à ceux qui l'avaient tué. Ils n'oublièrent pas non plus, les empereurs romains, de prendre systématiquement le titre de tribun du peuple, aussi bien parce que cet office était tenu pour saint et sacré, que parce qu'il était établi pour la défense et protection du peuple. Et par ce statut et ce moyen, ils s'assuraient que le peuple leur accorderait davantage de confiance. Comme s'il suffisait d'en entendre le nom pour ne pas en ressentir les effets tout contraires. Aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup mieux, ceux qui ne font guère de mal, surtout conséquent, sans l'accompagner de jolis propos sur le bien public et le soulagement commun. Car tu connais bien, ô Longa, les formules d'usage, dont en quelques endroits ils pourraient user assez finement, mais pour la plupart, il ne peut y avoir de finesse, là où il y a tant d'impudence. Les rois d'Assyrie, et encore après eux ceux des Mèdes, ne se présentaient en public que le plus tard qu'ils pouvaient, pour que la populace se demande s'ils n'étaient pas, en quoi que ce soit, supérieurs à de simples hommes, et pour laisser en cette illusion les gens qui aiment volontiers à s'imaginer ce qu'ils ne peuvent juger par la vue. Ainsi tant de nations, qui furent assez longtemps sous cet empire assyrien, s'accoutumaient à servir avec ce mystère, et servaient plus volontiers encore, du fait de ne pas savoir quel maître elles avaient, ni même si elles en avaient un. Et tous craignaient sur la foi d'autrui un maître que personne n'avait vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt un chat, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient ainsi et faisaient les bateleurs, et ce faisant, par l'étrangeté de la chose, ils inspiraient à leurs sujets révérence et admiration, alors qu'aux yeux de gens ni trop sots ni trop asservis, ils n'auraient donné matière qu'à s'amuser et à rire. Quelle pitié d'entendre toutes les choses dont les tyrans du temps passé faisaient leur profit pour fonder leur tyrannie. De combien de moyens mesquins ils usaient, ayant de tout temps trouvé cette populace faite à leurs mains, tant elle se prenait bien aux filets les plus mal tendus. Cette populace qu'ils ont toujours trompée si facilement qu'ils ne l'assujettissaient jamais tant que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre belle tromperie que les peuples anciens prirent pour argent comptant. Ils crurent fermement que le gros doigt de Pyrrhus, roi des Épirotes, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enrichirent encore mieux le comte en disant que ce doigt, après qu'on eût brûlé tout le corps mort, avait été retrouvé entre les cendres, intact, malgré le feu. C'est toujours ainsi que le peuple sot fait lui-même des mensonges pour les croire ensuite. Beaucoup de gens ont rapporté ce fait par écrit, mais de telle façon qu'il est aisé de s'apercevoir qu'ils ont recueilli là des rumeurs de la ville et des bavardages de la populace. Vespasien, revenant d'Assyrie et passant à Alexandrie pour aller à Rome s'emparer de l'Empire, fit des miracles. Il remettait d'aplomb les boiteux, il rendait la vue aux aveugles, et toutes sortes d'autres belles choses, dont ceux qui n'en voyaient pas l'invraisemblance étaient bien plus aveugles, à mon avis, que ceux qu'il guérissait. Les tyrans eux-mêmes trouvaient bien étrange que les hommes pussent supporter un homme leur faisant mal. Ils voulaient absolument brandir devant eux la religion comme garde-corps, et si cela était possible, ils empruntaient quelque échantillon de la divinité pour le soutien de leur méchante vie. Salmonée, pour s'être ainsi moqué des gens, en tentant de se faire passer pour Jupiter, le paye dans le fond des enfers, si l'on en croit la Sibylle de Virgile, qui le vit en son enfer. Souffrant de cruels tourments pour avoir voulu imiter les tonnerres du ciel, les feux de Jupiter. Sur quatre coursiers, celui-ci allait remuant, haut monté dans son poing, un grand flambeau brillant. Parmi les peuples grecs et dans le populeux marché, de la ville d'Élide, haut, il avait marché, et faisait sa bravade, ainsi empiétait, sur l'honneur qui seul aux dieux appartenait. L'insensé qui le rage et foudre inimitable, contrefaisait dans de l'airain et d'un cours effroyable de chevaux aux pieds de corne le Père Tout-Puissant, lequel bientôt, après ce grand mal punissant, lança non un flambeau, non pas une lumière, d'une torche de cire avec sa fumée, mais du rude coup d'une horrible tempête. Il le fit dégringoler en bas, pied par-dessus tête. Si celui qui ne faisait que le sot est à cette heure si bien traité là-bas, je crois que ceux qui ont abusé de la religion pour être méchants s'y trouveront encore à meilleure enseigne. Les nôtres semèrent en France je ne sais quoi de tel, des crapauds, des fleurs de lys, l'ampoule et l'oriflamme, ce que pour ma part, quoi qu'il en soit, je ne veux pas refuser de croire. En effet, ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons eu jusqu'ici la moindre occasion de refuser de le croire, ayant toujours eu des rois si bons en temps de paix et si vaillants à la guerre, que malgré le fait qu'ils soient nés rois, il semble pourtant qu'ils n'ont pas été faits comme les autres par la nature, mais qu'ils ont été choisis par Dieu Tout-Puissant avant de naître pour le gouvernement et la conservation de ce royaume. Et encore, quand cela ne serait pas vrai, pourtant ne voudrais-je pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires, ni les éplucher de trop près, car je ne voudrais pas risquer de nous priver de ce beau jeu où peut magnifiquement s'illustrer notre poésie française. Maintenant non pas accoutré, mais comme il semble tout rénové par notre Ronsard, notre Baïf, notre Dubélet, qui en cela font tant avancer notre langue que j'ose espérer que bientôt ni les Grecs ni les Latins n'auront plus rien à mettre en avant, si ce n'est peut-être un droit d'aînesse. Et certes, je ferai grand tort à notre poésie, car j'use volontiers de ce mot, et il ne me déplaît point, bien que plusieurs en aient fait un terme technique. Je vois toutefois assez de gens qui sont à même de lui redonner ses lettres de noblesse et de lui rendre son premier honneur. Mais je lui ferai, dis-je, grand tort en lui ôtant maintenant ces beaux contes du roi Clovis, dans lesquels je vois déjà, me semble-t-il, combien plaisamment la veine de notre Ronsard en sa Franciade s'y aiguera à son aise. J'entends sa portée. Je connais l'esprit aigu. Je sais la grâce de l'homme. Il fera merveille de l'oriflamme aussi bien que le firent les Romains de leurs anciles et des boucliers du ciel en bas jetés, dit Virgile. Il ménagera notre ampoule aussi bien que firent les Athéniens avec le panier d'Érictone. Il fera parler de nos armes aussi bien que de leurs olives qu'ils assurent être encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais insolent de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les brisées de nos poètes. Mais pour revenir à ce dont je m'étais je ne sais comment détourné au fil de mon propos, seuls les tyrans, cherchant à assurer leur domination, se sont efforcés d'accoutumer le peuple à les considérer non seulement avec obéissance et servitude, mais encore avec dévotion.
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on! Talk about freedom. 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 Freedom, yeah! About peace, freedom to scream about peace, freedom in the European East, baby, not just the European East. I want some freedom to smoke some herb, smoke some herb. I want some freedom to do what I want, do what I want, baby. Freedom to cry, freedom to cry, freedom to lie, freedom to lie, freedom of love, baby, love, baby, love, baby. Freedom of love, God above, God above, God above, baby, come on. Songs about freedom, yeah. This song's about freedom, yeah. This song's about freedom, yeah. Freedom, freedom, yeah.
Freedom!